Vous êtes sur RTL.
Vous connaissez l'expression « Thanks God, it's Friday ».
Oui, et oui.
Bah, Dieu merci, c'est vendredi. En général, ça annonce le week-end, on est content. Moi, je suis content de vous retrouver chaque vendredi, je voulais vous le dire.
Ah, c'est mignon.
C'est tout. On peut commencer.
Thanks God, it's Friday. Et ils sont de retour pour un nouveau numéro d'On défait le monde. Voici Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Brice Dugénie, Greg Caranoni et Cyprien Simi.
C'est la saison 2, c'est quoi le numéro 10 déjà de
Absolument,
cette
vous
saison
comptez bien.
Merci. Vous réagissez, vous commentez bien sûr tout cela, l'émission jusqu'à 20h, l'actualité décryptée avec rigueur et bonne humeur sur le compte Twitter et sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. C'est parti avec Cyprien pour votre sommaire.
On a des masques, on a de la distanciation, on a du gel hydroalcoolique et pourtant, retour à la case confinement, comme une impression de tout ça pour ça. Explication et décryptage à venir. Présidentielle américaine J-4, les sondeurs s'étaient lamentablement plantés il y a 4 ans en prévoyant une victoire d'Hillary Clinton. Vous comprendrez pourquoi cette année, ils pensent voir juste en plaçant Joe Biden en tête. Dans Défait le Monde, vous découvrirez le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, bah, il a une tête de citrouille. Hein. C'est Halloween, tellement loser qu'on l'avait presque oublié, dites donc. Le droit de suite, le billet retour de Brice Dugénie, souvenez-vous, la fascinante histoire des mineurs chiliens qui étaient restés bloqués plus de 2 mois, 700 mètres sous terre.
Oui, 10 ans après leur sortie en Mondiovision, que sont devenus les 33 héros?
En écoutant On défait le monde, vous découvrirez aussi vos 3 infos pour briller avec vos cas contacts. La belle initiative d'une étudiante en médecine et on vous offrira de quoi maintenir le lien avec vos proches grâce à une superbe tablette tactile. Dernier cri, super facile d'utilisation. La question du jeu, ce sera comme toujours vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 10.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde sur RTL.
Vous êtes des habitués, vous êtes les bienvenus. Un bon On défait le monde, ça commence par un surf. Le surf de la semaine avec Cyprien Sini.
Eh bien, ma foi, encore une bien belle semaine, hein, marquée par le saut de la joie, de l'allégresse et du bonheur. Ah, il y a une légèreté dans l'air en ce moment. Bon, alors, il y a quand même quelques nouveautés. Hein. Va falloir s'adapter, comme pour les enfants, à partir de lundi à l'école.
Le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans.
Et oui, encore bien vu pour notre chouchou Jean-Michel Blanquer qui expliquait pourtant fin août.
S'agissant du port du masque pour les enfants de moins de 11 ans, il nous a souvent été dit par les scientifiques que c'était plutôt contre-productif parce que les enfants auraient tendance à les enlever.
Ah, décidément, c'est scientifique. Hein. Bon, après, quand ils se trompent, les scientifiques, comme cet épidémiologiste, par exemple, eh ben, ils sont aussi capables de faire amende honorable.
Oui, ça, c'est sûr que ma prédiction n'était pas bonne, puisque c'est absolument pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Oui, il reconnaît qu'il a raté la deuxième vague. Mais alors, là où c'est étonnant, c'est pourquoi il n'a pas pu venir cette deuxième vague. Le gars fait Bac plus 12, est capable de créer des modèles mathématiques avec 14 inconnus, des calculs d'un autre monde, mais...
Il y a eu quelque chose que j'ai pas anticipé, c'est l'arrivée des mauvais jours, c'est la baisse des températures.
Ouais, la faille. Le gars a oublié qu'en automne, en fait, il faisait froid. Il a oublié le concept de saison. C'est quand même ballot, ça tient pas à grand chose quand même. Sinon, la blague de la semaine, elle est signée de notre Premier ministre, Jean Magic Castex.
Nous savions qu'une deuxième vague était possible et nous l'avions anticipée.
Et ouais, on a eu aussi le moment gênant de la semaine signé de la team France Insoumise. Conférence de presse à l'Assemblée, le leader Maximo Jean-Luc Mélenchon prend la parole entouré de quelques collègues et nous offre ce manque d'élégance.
Alors, monsieur Darmanin, et puis c'est pas le seul, hein, vous avez Machine Schiappa. Bon, il dit carrément que nous
ouais, même ses potes regardent leurs chaussures en marmonnant Marlène dans leur barbe, tellement c'est gênant. Heureusement que cette semaine, on a aussi eu ce député modem qu'on ne connaissait pas, le dénommé Jean-Noël Barrot, qui à l'Assemblée a lancé ça.
Notre responsabilité première en téléchargeant tous anti-Covid sur son téléphone. Que ceux qui l'ont téléchargé lèvent la main.
Et là, on le remercie parce que tout de suite, bah, ça nous a fait penser à...
Que tous ceux qui sont dans la vibe...
que ceux qui l'ont téléchargé lèvent la main.
Ce tube de Yannick sur lequel Brice se trémoussait torse nu au début des années 2000.
Toujours.
Toujours de temps en temps, c'est pareil. Enfin, sur Deezer, François Hollande a répondu à cette question que tout le monde se pose. Quelle musique écouter pour une virée en scooter dans Paris la nuit? Et là, il sait de quoi il parle, François Hollande. Enfin, normalement, écoutez.
Ah,
Généralement, on n'écoute pas beaucoup de musique dans ce cas-là, mais comme ça s'appelle, la chanson que Bruel devait chanter, qui a reprise sur les balles. Le bal du samedi soir, je pense que ça s'appelle comme ça.
Alors. Chanson que Bruel devait chanter, le bal du samedi soir. Ça nous a pris bien la journée. Hein. On a bien cherché, une seule possibilité s'offre à nous. Alors ça s'appelle pas du tout le bal du samedi soir, mais mon amant de Saint-Jean.
C'est pas vraiment Patrick Bruel.
Ça n'a rien à voir, et c'est pas Patrick Bruel. Donc sur cette note résolument moderne, on imagine François Hollande dans les rues de Paris comme ça. Vivement la semaine prochaine quand même.
Vivement la semaine prochaine, surf de la semaine Cyprien Sini. Il surfe rien que pour vous, tous les matins, aussi du lundi au vendredi à 7h-20 et juste avant 8h, aux côtés de Yves Calvi.
On défait le monde sur RTL.
19h24, c'est l'heure dont on défait le monde de la grosse info face au coronavirus. Tout ça pour ça.
Bah oui, ça y est, on se retrouve tous reconfinés, quasiment comme au mois de mars. Pourtant, même si c'est loin d'être parfait, on a tous fait des efforts comparé au mois qui avait précédé le premier confinement, où on savait rien, ou presque, en janvier, février dernier, pas de masque, on vivait normalement, et donc confinement. Mais là, masque, distanciation, couvre-feu, et on arrive au même résultat. Alors Brice, finalement, on n'a pas envie de se dire que tout ça a servi à rien.
Eh bien non, cela n'a pas servi à rien, parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas exactement la même qu'en mars. Le masque et les autres mesures de prévention n'ont pas été inutiles, et pour vous en convaincre, écoutez la professeure Anne-Claude Crémieux, elle est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Louis à Paris, et quand on lui demande si le masque a été utile...
Oui, le masque a servi à quelque chose. D'abord, le taux de reproduction du virus aujourd'hui est inférieur à ce qu'il était clairement en mars. Et ça, ce sont les mesures barrières individuelles qui ont été prises. On n'est pas au même point, parce que, rappelez-vous, en mars, le taux de reproduction était de environ 3. Aujourd'hui, il est entre 1 et 2. Ça,
3, ça veut dire qu'une personne...
Une personne contaminait 3 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plutôt entre 1 et 2.
Donc si on fait un calcul, en mars, sans masque et des gestes barrières approximatifs, un groupe de 10 malades contaminait 30 personnes, qui elles-mêmes contaminaient 90 personnes, puis 270, 810, 2430. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez ce même groupe de 10 malades avec les masques et les gestes barrières, eh bien, ils n'en contaminent plus 30, comme en mars, mais seulement 15. Et ces 15 en contaminent 22, 33, 50, les proportions sont beaucoup plus faibles, alors cela évolue beaucoup plus lentement, donc grâce aux masques et aux gestes barrières, le virus circule moins vite.
Mais alors, pourquoi on reconfine alors si le virus circule beaucoup moins vite?
Parce que moins ne veut pas dire plus du tout, c'est mieux, mais c'est encore insuffisant. Écoutez la professeure Crémieux.
Nous ne contrôlons pas l'épidémie, mais on la freine par rapport à ce qu'on a connu. Et ça, c'est l'effet masque, c'est l'effet distance. Le problème, c'est que ça n'est pas suffisant pour un contrôle assez important de l'épidémie qui éviterait ces conséquences sanitaires qui nous obligent à prendre des mesures supplémentaires.
Donc freiner l'épidémie permet de limiter les contaminations, donc les hospitalisations, mais à un moment, même moins rapidement, vous atteignez ce seuil critique dans les hôpitaux, et donc il faut prendre cette mesure forte dont elle parle, le reconfinement. Sans masque et sans les gestes barrières, eh bien peut-être que ce reconfinement aurait été nécessaire en août ou en septembre, surtout si vous ajoutez que la situation, contrairement en mars, aujourd'hui en France, toutes les régions sont touchées. Je vous prends un exemple, la Haute-Vienne, le département qui était totalement épargné lors de la première vague, eh bien il est aujourd'hui écarlate.
Mais c'est sans fin, Brice.
Eh bien oui, d'ailleurs dans son allocution mercredi soir, Emmanuel Macron y a fait référence.
Je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne.
Ce qui veut dire que sans vaccin, sans traitement, ce cycle pourrait être répétitif. C'est ce qu'expliquait Éric Combe, il est chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière chez nos confrères de BFM TV.
Quand 60 à 70% de la population aura été immunisée, que ce soit naturellement ou que ce soit par le vaccin, le virus arrêtera de circuler.
En fait, on va avoir une vague par saison.
Bon, à mon avis, ça ne sera pas par saison, ça sera jusqu'à ce qu'il y ait une immunité, il y aura des vagues.
Donc oui, il se peut que, comme à deux reprises cette année, les gestes barrières ne soient plus suffisants, qu'il faille repasser par cette case confinement. En attendant, la professeure Crémieux le répète.
Ce dont on est certain, c'est que lorsque on associe masque plus une distance de 1 à 2 mètres, plus si on est en milieu clos, une aération régulière, on a un niveau de protection excellent. Si vous faites ça, vraiment, vous diminuez considérablement, voire faites disparaître les chances d'être infecté.
En attendant le vaccin, voilà donc la procédure à répéter encore et encore.
Et votre démonstration, ça me fait penser à la phrase de La Haine, le film de Kassovitz. Ouais, ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
C'est en fait, exactement
on chute, on chute, on chute, plus lentement, mais voilà.
Oh, la culture, c'est
un peu de cinématographie.
C'est toujours impressionnant.
Quand on en a, on étale, non c'est, pas ça.
Ouais, c'est un peu et ça. Si vous connaissez pas ce film, je vous invite à le revoir pour le week-end du confinement.
Proposition culturelle.
En défait, le monde de la suite arrive, bien sûr, il est 19h28. On va aller chez Laurent Tessier, qui est confiné, qui est connecté, bien sûr, pour la première info.
Il est qu'à contact.
Il est qu'à contact. A tout de suite, Laurent.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller, bah tout seul.
C'est la première de ce soir avec notre cas contact maison. En tous les cas de l'équipe, c'est Laurent Tessier qui est connecté depuis chez lui. On parle ballon rond, non ?
Oui, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'une légende du football. Argentine, Diego Maradona, aujourd'hui 60 ans. Bon, on a tous en tête la main de Dieu et ce but de la main en quart de finale du Mondial 86 contre l'Angleterre. Mais ce qui est dingue, c'est qu'un mouvement religieux a été fondé à Rosario en Argentine en 1998. C'est l'église maradonienne. Elle rencontrait 100 000 fidèles dans le monde. Et le principe est très simple. Les pratiquants se réunissent chaque année lors des deux jours saints. Il y a le Noël maradonien le 29 octobre, c'était hier, donc joyeux Noël. Et les fêtes de Pâques maradoniennes le 22 juin, en référence au 22 juin 86, c'est la victoire, la main de Dieu face à l'Angleterre. Des mariages maradoniens sont même célébrés.
Le Notre Tout dans Diego, la mesure, quoi.
Et oui, le Notre Diego va même plus loin, remplace le Notre Père pour la prière. Que ton pied gauche soit béni. Bref, c'est fascinant. Mais le petit bonus, et celui-là, il vaut cher, Diego aurait pu être le prénom du fils de Cyprien. Mais résultat, il faut vous le dire.
C'est vrai que je suis un peu maradonien.
Vous êtes des fidèles, ouais.
Je voulais appeler mon fils Diego et ma femme a refusé.
Ah ouais.
Merci. Merci, madame.
Diego Maradona.
Et bravo.
Première info pour envoyer au dîner ce soir, signé Laurent Tessier, les 19h33.
Allume la lumière.
Allume la lumière, c'est nouveau en cette saison 2, vous le savez, c'est quand un expert nous ouvre les portes du savoir.
Et ce soir, voyage dans la tête d'un sondeur. Oui, l'élection présidentielle américaine, c'est dans 5 jours. Et comme il y a 4 ans, bah, les sondeurs sont unanimes. Hein. Oui, il y a 4 ans, dans les sondages, on nous donnait une victoire pour Hillary Clinton.
Oui, résultat, c'est Donald Trump qui a gagné. Et cette année, ils annoncent tous une victoire de Joe Biden.
Ouais, mais sauf que ce coup-ci, bah, ils ont prévenu et ils ont prévu de ne pas se tromper. Bonsoir Mathieu Gallard.
Bonsoir.
Bah, vous êtes directeur de recherche à l'Institut Ipsos. Bon, on va y aller directement. Pourquoi ce coup-ci, on peut se fier au sondage qui donne la victoire de Biden ?
Mais il y a deux raisons. Déjà, il y a une raison, vraiment, quand on regarde les dynamiques aux États-Unis, c'est assez différent de 2016. En 2016, juste avant l'élection, Hillary Clinton était à environ 3 points d'avance sur Donald Trump au niveau national. Là, aujourd'hui, Joe Biden, il est plutôt autour de 8-10 points d'avance dans les derniers sondages qui ont été réalisés en moyenne au niveau national. Et bon, bah, il suffit juste d'un petit peu de bon sens pour voir que il est préférable d'être en avance de 8-10 points plutôt que de 3 points d'avance juste avant le scrutin. Et puis, d'autre part, il y a eu des évolutions méthodologiques qui ont eu lieu depuis 2016. Évidemment, les instituts de sondage se sont demandé pourquoi ils s'étaient trompés. Alors, pourquoi ils s'étaient trompés, d'ailleurs, uniquement dans 3 ou 4 États qui avaient été mal anticipés au niveau national.
Ouais, mais trois États, c'est un peu la spécificité américaine, justement. C'est là où il ne faut pas se planter.
Exactement. Alors, bah, le problème, c'est qu'on ne sait jamais où ça va se jouer. Donc, globalement, voilà. Et on a regardé ce qui s'était passé. En fait, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on prenait pas bien en compte le niveau de diplôme des électeurs de ces États. Et depuis quelques élections, et notamment en 2016, on voit que ceux qui ont un diplôme universitaire votent massivement démocrate. Ceux qui ont un niveau de diplôme plus faible votent massivement Trump. Donc, maintenant, on fait en sorte d'avoir des échantillons qui sont représentatifs de la population aussi en ce qui concerne le niveau de diplôme. Et puis, l'autre élément, c'est qu'en 2016, il y avait dans ces quelques États pas mal de personnes qui étaient indécises encore au dernier moment, juste avant l'élection, environ 10% des électeurs, et on avait vu, après l'élection, qu'ils avaient massivement voté Trump. Cette fois, il y en a beaucoup moins, c'est plutôt 3-4%, donc déjà, ça fait beaucoup moins de réserves de voix potentielles, et donc ça ne devrait pas vraiment changer le rapport de force qu'on voit aujourd'hui.
Est-ce que le vote par anticipation qui a été massif cette année, ça vous perturbe, ça ?
Non, pas spécialement. On interroge les électeurs pour savoir comment ils vont voter, et s'ils nous disent qu'ils ont déjà voté par anticipation, on leur demande comment ils ont déjà voté. Donc finalement, c'est encore plus fiable d'ailleurs, parce que les électeurs qui ont déjà voté, bah, ils ne peuvent plus changer d'avis. Pour nous, c'est plutôt un élément encore qui nous rassure d'ailleurs. Clairement, aujourd'hui, c'est Joe Biden le favori.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous pouvez nous annoncer en exclusivité que Joe Biden va être le futur président des États-Unis ?
Ben non, justement, c'est bien ce que je veux dire.
Attention, vous rappelle la semaine prochaine. Hein.
Oui, ben voilà, donc je reste prudent. Non, non, Joe Biden est clairement le grand favori. Malgré tout, il y a un ou deux scénarios. Si vraiment les étoiles sont parfaitement alignées pour Donald Trump, où il peut l'emporter, mais ça serait encore plus une énorme surprise qu'en 2016.
Vous êtes sondeur. Quand vous avez raison, personne ne vous félicite, mais en revanche, on vous tombe dessus et on vient vous demander des explications quand vous vous trompez. Et on ne retient que ça. D'ailleurs, par exemple, il y a 4 ans, on retient que les instituts de sondage sont trompés aux États-Unis. Comment vous vivez ces choses-là et qu'est-ce que vous faites à titre perso pour lutter contre ça?
Je sais pas, je fais pas grand chose. Non, mais effectivement, c'est vrai ce que vous dites. Enfin, globalement, quand vous regardez les sondages qui sont réalisés pour des élections à Ipsos, on est présent au niveau électoral dans une vingtaine de pays. On prévoit le bon vainqueur dans, allez, 95% des cas. Et c'est vrai qu'on va se rappeler sur toutes ces 5%. Après, voilà, c'est le jeu. C'est normal qu'on
c'est vrai que quand c'est les États-Unis, ça marque, quoi.
Bah, voilà, forcément. Et donc, ça nous incite à faire mieux. Et là, on a donc pris des mesures pour essayer de faire mieux, de coller au mieux du vote des Américains. Donc voilà, suspense pour nous. On croise les doigts.
Bon, ben merci beaucoup, Mathieu merci Gallard. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut Ipsos et que si c'est Donald Trump qui gagne cette semaine, on vous rappelle vendredi.
Merveilleux.
Suivre dans On défait le monde.
Une info pour briller tout seul ou en confinement ou avec qui vous voulez. Le loser de la semaine, vous découvrirez son identité. Il est orange, c'est un indice. Et puis le jeu pour gagner un magnifique cadeau.
C'est Casimir.
À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller dans son salon.
Nous étions en Argentine avec Diego tout à l'heure et Laurent Tessier. Brice, c'est à vous la deuxième info pour briller ce soir, concerne la Pologne.
Oui, je voulais revenir sur la décision de la Cour suprême polonaise de restreindre le droit à l'avortement dans le pays. Décision qui a provoqué ces derniers jours des manifestations énormes dans les rues de plusieurs villes polonaises. En fait, la nouvelle loi, elle interdit l'avortement en cas de malformation du fœtus, même si elle est irréversible, ça représente 98% des cas dans le pays, donc ça revient quasiment à l'interdire. Alors la Pologne, elle est membre de l'Union européenne, union dans laquelle ce droit est quand même largement reconnu et n'est pas du tout remis en cause. Et pourtant, il y a un autre pays de l'Union européenne dans lequel l'avortement est illégal, donc interdit, absolument. Et quelle que soit la situation sociale ou sanitaire de la future maman, ce n'est pas possible.
Interdit,
c'est à Malte. Les femmes encourent jusqu'à 3 ans de prison si elles viennent à décider d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Information de Brice Dugénie, le grand reporter du service étranger de RTL, membre de toute l'équipe de On défait le monde le vendredi, il est 19h40.
C'est l'heure du loser de la semaine.
Céline n'est pas là, elle se repose, mais avant de partir, elle nous a laissé quand même son loser de la semaine.
Bah oui, elle n'allait pas se priver de son meilleur moment de la semaine, et donc ce soir...
Son moment de gloire.
Voilà, bah le loser qu'elle a choisi, hein, je me fais son porte-parole, c'est... Eh oui, Halloween, car aujourd'hui, ce n'est pas seulement le premier jour du reconfinement, c'est aussi la veille du 31 octobre, et le 31, c'est donc cette fête très américaine pendant laquelle on joue à se faire peur, vous me direz. On n'a pas forcément besoin en ce moment, mais Halloween, c'est aussi une fête qui enchante les plus jeunes.
Je suis un pirate. Je suis un vampire. Je suis des sorcières.
On dit des bonbons ou un sort?
Ah, les enfants qui se régalent.
On va aller se balader avec papa et puis on va aller chercher des bonbons un petit peu partout.
Eh non, mon grand, ce soir tu restes chez toi. La case collecte de bonbons n'existe pas sur ton attestation, on l'a pas trouvée. Mais Halloween, ce n'est pas qu'une fête pour les enfants.
C'est le moment où on se retrouve avec tous nos amis et c'est un peu la soirée dont on se rappelle.
C'est ma fête préférée sans Halloween, ben moi je meurs. Le programme c'est une soirée avec de l'alcool et puis ça va être sympa quoi.
Sympa, pas si sûr. Hein. Chacun chez soi, la soirée en visio à la rigueur. Je rappelle que c'est confinement. Reste des irréductibles, hein. Ceux qui veulent quand même marquer Halloween malgré tout. Direction donc la Belgique.
Un drôle d'Halloween. Alors pas drôle parce que tout le monde est déguisé. Drôle d'Halloween parce que notamment porte-à-porte interdit dans les mesures dans les circonstances qu'on connaît.
Ah, ils sont drôles, hein, les Belges. Vous avez déjà compris que le confinement, c'était pas drôle, merci. Mais la RTBF a rencontré ce monsieur qui se préparait quand même coûte que coûte.
Cette année, ça va être différent, bien sûr, vu le Covid. La décoration, ben, on va faire comme s'il n'y avait rien. Mais bon, c'est un peu à contre-queue, puisque les enfants ne seront pas là. Il y aura pas... Ça sera complètement différent.
C'est vrai que c'est triste. C'est hyper triste, il a décoré sa maison pour rien. Mais aucun enfant ne passera. On salue l'abnégation de ce monsieur. Dommage pour les citrouilles qui, cette année, avaient une petite chance d'être épargnées.
Voilà, Halloween a le titre de loser de la semaine décerné donc par Céline Landreau, la grande absente de ce soir.
On embrasse,
bien sûr. 19h42, on a un cadeau pour les auditeurs, bien sûr.
L'instant que vous attendez tous.
Monsieur Cadeau.
Le cadeau que Monsieur Cadeau vous a dégoté. Alors Greg Caranoni, réalisateur, et Monsieur Cadeau, c'est quoi?
C'est une tablette facile au table. C'est une tablette tactile équipée d'un système facile au table, un écran simple et complet dès le démarrage de la tablette. Facile au table est destiné à toutes les personnes qui veulent une tablette réellement facile à prendre en main et facile d'utilisation. Alors pour le confinement, c'est parfait, c'est parfait.
Oh, il est formidable.
Circonstance, bravo.
Mais alors, pour gagner cette formidable tablette super bien vendue par Grégory Caranoni, la fameuse question dont défait le monde. Comment s'appelle le favori des sondages pour l'élection américaine? Est-ce que c'est Joe Dalton, Joe Biden ou Joe Lafrite?
Joe le taxi.
Il y a aussi Joe, Joe le taxi.
C'est vrai qu'on a parlé.
Joe Dalton, Joe Biden, Joe Lafrite ou Joe le taxi. Vous avez la bonne réponse, 32-10. On tirera au sort parmi les gagnants et on passera un petit coup de fil au vainqueur en toute fin d'émission à gagner une tablette facile au tab.
Ah, elle fait partie des meilleures de la saison.
Merci. Hein.
C'est bien signé. 3-2-1-0 à partir de maintenant. Bonne chance à vous tous. Le standard est accessible. C'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Le billet retour, quand on vous donne des nouvelles d'une info qui a fait la une et dont on ne parle presque plus d'ailleurs.
Et alors ce soir, on vous replonge dans l'histoire fascinante des mineurs chiliens. Vous en souvenez certainement, c'était en août 2010. Un effondrement dans une mine de San José, 33 mineurs bloqués sous terre et des opérations de sauvetage titanesques que l'on avait suivies comme un véritable feuilleton.
Ces hommes pris au piège depuis plus de deux semaines maintenant.
Les 33 mineurs chiliens bloqués dans leur mine depuis trois semaines.
À 700 mètres sous terre, la vie des 33 mineurs.
Coincés depuis presque un mois à 700 mètres sous terre.
Et ça avait duré 69 jours comme ça, bloqué par plus de 35 degrés à 700 mètres sous terre jusqu'à ce 13 octobre 2010.
C'est l'image du jour. Ce sont des hommes en pleine santé, débordants de vie, qui sont remontés à la surface au Chili.
Ils sortent en héros. Ça, c'était il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Vous vous en souvenez, hein?
10 ans.
Ouais, ça va vite. Alors, Brice, il est devenu quoi, ce groupe des 33?
Alors, le groupe de mineurs, 32 Chiliens et un Bolivien, a complètement éclaté une fois sorti de cet enfer souterrain, très loin de ces images d'un groupe d'hommes soudés dans l'adversité. Ça est intervenu très rapidement, en fait. Quelques semaines après cette sortie, ils ont signé tous ensemble un contrat pour vendre les droits de leur histoire pour un livre et un film adapté à Hollywood avec Antonio Banderas et Juliette Binoche, Les 33. Et certains ont eu très vite le sentiment d'avoir été floués par leurs avocats. 10 ans après, Jimmy Sanchez, le plus jeune mineur, livre à l'AFP son sentiment amer.
À l'époque, j'avais 19 ans. J'étais jeune, j'avais aucune expérience, j'étais pas préparé à ça. Aujourd'hui, je remercie quand même le gouvernement parce que certes, je suis en vie, mais il y a beaucoup de gens qui ont profité de nous, de notre souffrance, qui ont gagné beaucoup d'argent avec notre histoire. Mais nous, on a eu le droit à rien.
Aujourd'hui, il vit avec sa femme dans une petite maison de Copiapó qu'il partage avec une vingtaine d'autres personnes et ce sentiment d'avoir été totalement oublié.
C'est ça le sentiment qui domine?
Oui, clairement. Et cela pour deux raisons qu'on comprend bien avec un autre cas, celui de José Ojeda. Aujourd'hui, il a 57 ans, on lui en donne 15 de plus, il marche comme un vieillard avec une canne et il a aujourd'hui des problèmes à trouver le sommeil, ressent des angoisses irrationnelles. Alors il a essayé de retrouver du travail, mais comme pour les autres mineurs, c'est très difficile, voire impossible.
C'est impossible de trouver du travail quand vous dites que vous êtes un des 33 mineurs. Les employeurs pensent que vous êtes trop fragile. Ils préfèrent ne pas vous embaucher. Certains pensent aussi qu'on a gagné beaucoup d'argent, mais c'est faux. Moi, je gagne une petite pension, mais ce n'est pas grand-chose, vraiment très peu.
Impossible de retrouver un travail. Aujourd'hui, José Ojeda touche une pension de l'État chilien de 300 euros par mois, insuffisant pour payer ses soins et examens médicaux qu'il doit suivre pour traiter son diabète. Une forme de double peine que ressentent les mineurs.
Et dans ce groupe de 33, il y en a qui s'en sont sortis quand même?
Oui, les mineurs les plus charismatiques ont été sollicités, très sollicités, parfois bien payés pour des conférences ou des émissions télé. C'est le cas de Mario Sepúlveda. Alors, c'était le mineur le plus bavard. C'est lui qui, la plupart du temps, faisait ses vidéos, qu'envoyait les mineurs en surface pour donner des nouvelles. L'année dernière, il a participé à une émission de télé-réalité Résistiré au Chili. Alors le principe, c'était un peu comme Koh-Lanta, fallait résister à des épreuves.
Il était bien entraîné. Lui.
Voilà, exactement. Super Mario, de son surnom, a remporté le jeu, a empoché 130 000 euros qu'il a investi dans une fondation pour les enfants autistes, comme l'un de ses 6 enfants. 10 ans plus tard, il parle encore avec nostalgie de l'époque de la mine et demande à l'État chilien d'aider les mineurs.
Je
me souviens de notre belle solidarité, de cette belle équipe soudée. Le minimum qu'ils peuvent faire aujourd'hui, franchement, c'est de nous indemniser les mineurs qui sont dans la galère. Nous n'avons aucune chance de retrouver un emploi nulle part au Chili. Mon rêve, c'est que les 33 mineurs puissent vivre confortablement et tranquillement, en paix.
Et l'État chilien, justement, il fait rien ?
Alors, 14 anciens mineurs touchent donc cette pension dont je vous parlais de 300 euros, mais les autres rien. Alors, ils ont mené une action en justice contre l'État et contre la société minière San Esteban, justement, pour obtenir une indemnisation de 110 000 euros chacun. La justice a mis la société hors de cause, mais a condamné l'État chilien à payer. Mais l'État a fait appel de la décision, une nouvelle humiliation pour les mineurs. Le seul gros changement, en fait, ces 10 dernières années, ce sont les conditions de sécurité qui ont un peu évolué. En 2010, pour vous donner une idée, l'année de l'accident, il y avait à peu près 2400 inspections de mines chaque année. L'année dernière, il y en a eu 10 000. C'est 4 fois plus. Donc la sécurité s'est améliorée. Mais la mine, en tout cas de San José, elle a fermé. C'est devenu presque un lieu de pèlerinage. Mais plus d'or, plus de cuivres ne sont sortis de la mine depuis 10 ans.
Voilà, 10 ans après le billet retour de ce soir signé Brice Dugénie. Il est 19h48.
À suivre dans On défait le monde.
Une dernière info pour briller et une superbe initiative d'étudiants infirmières.
Défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour s'impressionner soi-même.
Mais Cyprien adore ça. Et il s'impressionne
ça.
Lui-même ouais. Tous les jours.
Il va bien, celui-là.
Moi, je le vois quand Cyprien, on prépare l'émission, il adore.
Greg, il n'y a pas spécial. De hasard.
Mais oui. Oh, j'adore ce que je fais.
La troisième de ce soir, Cyprien, vous parlez de quoi ?
Alors, je vous parle du Rubik's Cube. D'abord, parce que c'est peut-être un bon moyen de vous occuper pendant vos longs week-ends de confinés.
Non.
Mais surtout, si c'est sympa.
Parce c'est impossible. C'est...
Bah alors, cette semaine, séisme en Hongrie. Le Rubik's Cube, fierté hongroise depuis sa création par Erno Rubik, en 74, va changer de nationalité. Oui, la marque a été rachetée par les Canadiens pour 50 millions de dollars quand même. Mais la vraie info pour briller, c'est quel est le record du monde de Rubik's Cube ? En combien de temps un petit génie a-t-il réussi à aligner toutes les cubes de
12 secondes. 12
10,
secondes.
10.
Non. 8.
33. 7.
C'est 4 6. Secondes et 59 centièmes. 4 secondes, 59 centièmes. C'est complètement dingue. Vous allez voir la vidéo sur Internet, c'est absolument formidable.
Mais il va bien
Alors, je pense que le gars passe beaucoup de temps à faire ça. Mais 4 secondes, 59 centièmes. C'est incroyable.
Dingue. Elle est pas mal, cette info, pour envoyer au dîner ce soir.
Elle est facile, mais elle est pas mal.
C'est beaucoup de temps pour s'en sortir aussi vite. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. 19h51.
Marche ou rêve.
Ça, c'est votre moment, vous savez. Celui où on met en avant vos projets et vos belles initiatives.
Et ce soir, on a voulu coller à l'actualité en saluant une initiative qui a pour but d'aider les hôpitaux à tenir face à la déferlante du Covid, Laurent.
Ouais, je vous présente Mariam, elle a 20 ans, elle est étudiante en quatrième année de médecine à l'université de Caen et après 2 mois de stage en septembre et octobre dans un service de réanimation, elle a décidé de se porter volontaire et de proposer son aide aux hôpitaux. Bonsoir Mariam.
Bonsoir.
C'est une évidence pour vous de vous engager, c'était naturel ?
Ça a toujours été une évidence. J'ai fait ces études de médecine pour m'engager, pour aider les autres. Donc dans ce contexte sanitaire-là, ça paraissait important pour moi de poursuivre cet engagement et d'aider comme je pouvais à mon échelle.
Et comment ça se passe là ? Du coup, vous stoppez vos études pour aller aider dans un hôpital ?
Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je vais mettre un peu de côté mes cours pour pouvoir essayer d'assurer des gardes et apporter mon soutien au service de réanimation du CHU de Caen.
Vous l'aviez déjà fait pendant le premier confinement ? Enfin, pendant la première vague, quoi.
Non, parce que j'avais pas encore le statut d'externe. On avait possibilité de se mobiliser pour assurer des tests PCR, mais je ne l'avais pas fait pendant le premier.
Pardon pour la question, Mariam, mais quatrième année de médecine, donc à l'université, vous vous sentez avoir les épaules pour remplir ces missions-là ? Ou alors il faut une petite formation ? Comment vous gérez ça, vous ?
Je ne peux pas dire que j'ai les épaules pour le faire, parce qu'il me reste encore pas mal d'années d'études, mais... Je pense qu'on n'a pas le choix et que si on attend d'avoir les épaules pour le faire, il y a beaucoup de gens qui resteraient sans rien faire. Et je pense que c'est pas le moment où il faut avoir les bras croisés et attendre que ça se passe. Il faut essayer de faire ce qu'on peut avec les capacités que l'on a aussi Et voilà, c'est
Par exemple, sur une journée type, quel type de mission on peut vous donner dans un service, d'un hôpital? C'est des choses peut-être assez basiques. Expliquez-nous sur une journée, par exemple.
Sur une journée, bah, ça peut être très varié. Ça dépend de ce qu'on a comme patient. Mais par exemple, une journée dans un service Covid, ça va être d'aider en tout cas les infirmiers et les aides-soignants à faire la toilette des patients. Parce que bah, quand il faut tourner un patient, il faut être plusieurs. Il faut aussi pouvoir assurer les soins de base, les ECG, les prises de sang, vérifier que tout est raccord, on va dire, et puis ensuite apporter notre aide à l'équipe médicale quand ils ont besoin d'aide pour des gestes, par exemple.
Et Mariam, vous avez parlé avec vos proches de votre engagement ?
Elle est partie, Mariam, non ? On l'a perdue.
Ah. Non, j'ai pas entendu la question, désolé.
Ah, est-ce que vous avez parlé avec vos proches de votre engagement ?
Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai une famille qui est déjà dans le milieu médical, donc qui comprend, on va dire, mon engagement. Après, il y a toujours cette crainte de rentrer à la maison et de rapporter le virus, parce que bah, quand on est de 8h à 20h tous les jours en contact avec des patients qui sont Covid positifs, il y a toujours cette crainte de se dire, est-ce qu'il y a une gouttelette qui m'a atteinte et qui m'a contaminée et qu'après, bah, je contamine mes parents, mes proches. Donc c'est compliqué comme engagement, mais en même temps, c'est nécessaire aussi.
On vous dit bravo, bravo. En tous les cas, hein, pour cette initiative, c'est super. Bravo à vous et cet engagement.
Bon courage.
On le met en avant. Je crois que vous avez reçu des SMS parce que c'est votre téléphone qu'on entendait manifestement, Mariam.
Allez sur RTL.
À très bientôt, bravo. Merci à Laurent Tessier d'avoir monté tout ça pour ce marche au rêve en ce vendredi soir.
On a une gagnante du jeu pour la tablette facile au tab. C'est Annie dans l'heure. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
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 Alors félicitations, vous avez gagné, vous avez répondu à cette question qui était extrêmement difficile. Ah, comment s'appelle le favori de l'élection américaine pour les sondeurs ? Joe Biden, Joe Dalton ou Joe Lafitte ?
Joe Biden.
Bravo !
Bravo ! Vous suivez cette élection américaine ou ça vous intéresse particulièrement ou pas du tout ?
Oh, ça m'intéresse pas particulièrement, mais je suis l'actualité sur RTL, bien sûr.
Ah, très bien. Évidemment. Fidèle de l'émission. On vous envoie ça très vite à la maison.
Une tablette,
comme ça, c'est cadeau, hein, ce vendredi soir. On vous embrasse, merci Annie.
Eh bien, moi, je vous embrasse également, et une grosse bise masquée à Céline.
Ah, on l'embrasse aussi.
Ça va la toucher.
Ça va faire beaucoup, peut-être, pour ce soir.
Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je retire ma bise de tout à l'heure.
Ouais, pas exagéré.
Que de gentillesse.
C'est gentil pour elle.
Bravo l'équipe, bien sûr, pour ce On défait le monde ce soir. Il y avait Greg aux manettes, Cyprien Signy, Boris Dugénie, Laurent
Tessier
qui était connecté et qu'à contact. Il nous reviendra très très vite.
On l'espère.
On sera là vendredi prochain, le grand bonheur. Le football arrive, il n'y a pas de match ce soir, mais il y a football quand même de 20h à 23h. Bonne chance à vous.
Bravo les gars.